Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va voir comment l'amour des parents construit véritablement une confiance en soi solide qui permet de s'envoler vers les horizons les plus prestigieux. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Abir Kroul Rardan, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Abir?
Ça va très bien, alhamdoulilah. Merci pour l'invitation.
Alors, un plaisir de vous recevoir et surtout de parler avec vous de la démocratisation de l'information financière. Et ça, vous en avez fait votre mission, c'est bien ça?
Tout à fait.
Alors, racontez-nous l'histoire. Comment tout ça a-t-il commencé, justement? Pourquoi vous intéressez-vous, justement, à simplifier, amener de façon fluide l'information financière aux Marocains et aux Marocaines?
Écoutez, ça a commencé au début de ma carrière en travaillant dans des centres d'investissement, de grands centres d'investissement. Et là, j'ai vu deux choses. J'ai vu que l'accès à l'information financière, parfois de manière assez complexe, avait un accès privilégié à certaines personnes.
C'est vrai.
Et à côté de cela, j'ai vu que cet accès à cette information financière pouvait non seulement changer la vie des gens, mais changer aussi toute la structure d'un pays. Donc, j'ai passé un long moment de ma carrière au Grand-Duché de Luxembourg et j'ai vu comment ce pays a été transformé drastiquement grâce à la finance et grâce à la compréhension des mécanismes. Les mécanismes et à l'installation d'énormément de ces mécanismes-là au cours des 30 dernières années.
Ok. Alors, comment vous comptez vous y prendre, justement, dans cette mission-là? Vous n'habitez pas au Maroc?
Oui, mais je parle justement le marocain. Bon, ça fait très longtemps que j'ai quitté le Maroc, mais je le garde dans mon cœur. Et même en étant loin, ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser tout le background que j'ai, toutes les connaissances que j'ai de ce domaine, l'expertise, et puis de la communiquer de manière très simple, en darija, à la communauté marocaine.
Ok. Alors justement, vous animez Finance Belmaghrebi.
Tout à fait.
Alors c'est quoi exactement Finance Belmaghrebi?
Alors, Finance Belmaghrebi, c'est un podcast que j'ai lancé l'année dernière. C'est parti de cette idée que je voyais que parfois les personnes avaient envie d'investir en bourse, ils avaient envie d'acheter de l'immobilier ou ils doutaient est-ce que c'était de l'immobilier, de l'or, qu'est-ce qui était un bon investissement. Et je voyais que les personnes, ils avaient encore beaucoup de doutes et ce doute-là était causé par le manque de la culture financière et de la compréhension de l'investissement. Donc, du coup, j'ai lancé ce podcast-là l'année dernière et le but, c'est d'expliquer aux personnes ce que c'est les actions, comment investir en bourse, comprendre les différents mécanismes, les stratégies d'investissement, la bonne mentalité d'un investisseur et ça aussi pour but de séparer le vrai du faux. Parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux, on voit que beaucoup de personnes parlent d'investissement et pas toujours, on partage des informations qui sont justes et correctes. Donc l'idée, c'est aussi de pas seulement former les gens, mais de les aider à différencier entre ce que c'est une bonne information, une information fondée, et des informations douteuses ou trompeuses.
Alors, quand on voit justement votre bio sur LinkedIn, on voit de très très belles choses et on voit une personne qui a très bien évolué professionnellement. Award-winning investment banker, global experts in equities, crypto, et j'en passe. Comment on reste connecté avec le socle, avec la base, quand on a atteint ce niveau d'expertise?
Pour répondre à cette question-là, peut-être je dirais que ma carrière, elle a commencé d'une manière assez particulière. C'est-à-dire que j'ai peut-être commencé par le top.
Oui.
Au tout début de ma carrière, sachant que, étant encore jeune, J'ai intégré une grande banque d'investissement, un des plus grands groupes bancaires dans le monde. Et ce groupe-là, il était face à une amende gigantesque. C'était l'amende la plus importante de l'histoire. Il s'agissait de 14 milliards de dollars qui étaient descendus à 9 milliards après négociation. Et j'ai représenté ce groupe devant le procureur fédéral américain. Donc c'était une grande mission que les choses sont organisées de façon que le destin a fait que j'étais la personne qui avait représenté ce groupe à l'époque. Mmh. Et ça s'est très très bien passé. Et puis je me suis retrouvée très rapidement dans la grande direction de ce groupe-là. Donc je côtoyais les plus grandes têtes, je baignais dans cet environnement-là. Et donc naturellement, en passant de ce groupe vers d'autres entreprises, j'ai toujours eu des postes de grande responsabilité et dans le grand management. Et ça a continué comme ça jusqu'aux cinq dernières années où j'ai travaillé avec des family office. Donc, c'était des familles de milliardaires qu'on aidait pour la gestion de leur fortune, de leurs investissements, etc. En leur introduisant des stratégies et en les appliquant aussi. Et à un moment donné, en voyant tout cela, moi, je fais toujours quelque chose. Et je recommande à tout le monde de le faire. C'est que quand je me regarde dans le miroir, je n'oublie pas d'où je viens. Mmh. Et ça m'aide à garder une certaine stabilité émotionnelle dans un monde qui bouge énormément ou à grande vitesse.
Oui, mais quand vous dites « je n'oublie pas d'où je viens », est-ce que vous étiez prédestinée à cette vie-là, à cette carrière-là?
Honnêtement, j'ai toujours voulu travailler dans les investissements, j'ai toujours voulu travailler dans les grandes institutions, mais je n'ai jamais pensé que j'arriverais là où je suis arrivée, alhamdoulilah. Mm. Maintenant, quelque chose qui me tenait toujours à cœur, je suis très carriériste, bien évidemment, mais quelque chose qui me tenait toujours à cœur, c'était de toujours vendre au Maroc. Et puis, Finance Bel Maghribi, ça m'a permis de faire ce lien avec ma communauté, avec les Marocains, et aussi de remplir un gap que j'ai observé, pas seulement au Maroc, mais partout dans le monde. C'est que le problème n'a jamais été le manque d'argent, le problème était l'accès à l'information financière, à la compréhension de la finance. Et donc ça empêchait les gens de pouvoir prendre des décisions structurées, des bonnes décisions d'investissement. Ils prenaient beaucoup de risques et puis ensuite ils pensaient que le système était contre eux alors que c'est juste qu'ils ne comprenaient pas encore très bien le mécanisme. Mmh. Donc, les choses se sont structurées de cette manière-là et on est arrivé à avoir le podcast Finance Bel Maghribi.
Alors justement, quand je vous pose la question par rapport à ce que vous étiez prédestiné, c'est-à-dire est-ce que l'environnement dans lequel vous avez grandi vous prédestinait à ce genre de carrière ou bien vous êtes-vous battu contre un contexte pour arriver là où vous êtes?
Alors, je viens d'un environnement familial où le savoir était très, très important. Donc, je ne suis pas la seule personne de mes frères et sœurs qui a fait une très bonne carrière. Donc, je pense qu'on nous a inculqué ça depuis tout petit, que voilà, il faut se battre, il faut toujours aller au-delà, il faut faire plus, toujours faire plus. Et je pense que oui, c'est même ayant une enfance difficile à l'école, parce que j'ai un trouble de langage important. Malgré ceci, je pense que mes parents, ils avaient tout fait pour que je puisse être au moins au même niveau que mes frères et sœurs. Pour nous, c'était quelque chose d'assez normal dans la famille, de se battre, d'être bon à l'école, de se battre pour ses rêves, s'il y a une porte qui se ferme, on ouvre une autre porte, on cherche un autre chemin. Donc, c'est des choses avec lesquelles on a grandi depuis tout petit. Mmh.
Donc, trouble du langage petite, en fait, ça c'est, si vous permettez, si on peut en parler, parce que c'est aussi une lueur d'espoir pour tous ces parents aujourd'hui qui ont des enfants qui ont certains troubles de langage, d'écriture ou autres, et qui se disent « l'avenir de mon enfant est perdu, je ne pourrai jamais le voir comme je l'aurais espéré.
Mmh. » Oui, je comprends cette crainte qu'on peut avoir, parce que j'ai vu dans les yeux de mes parents, je la ressens moi-même, personnellement en tant que aujourd'hui. Mais ce que je peux dire, c'est que il ne faut pas catégoriser un enfant qui est différent. Et les différences, ça peut être de différentes manières. Donc les troubles de langage, le trouble spécifique du langage, ça en fait partie. Et c'était difficile pour moi à l'école au départ, surtout à une époque où on ne diagnostiquait pas encore parfaitement dans les écoles ce genre de choses. Mais en ayant du soutien de mes parents, surtout en travaillant sur ma confiance en moi, que je suis très bien, je suis très intelligente, que c'est pas grave si j'ai ça, je peux trouver d'autres codes, je peux trouver d'autres moyens de compenser le manque que j'ai. Et voilà, c'est avec le temps, je pense que le jour où j'ai pris cette confiance en moi, que je ne suis pas nulle, parce que c'est souvent l'étiquette qu'on met à l'école quand l'enfant il n'arrive pas à être dans la moyenne, c'est quand on est nul. Mais le jour où voilà, cette étiquette-là a été enlevée de ma tête, c'est allé vraiment tout seul. J'ai découvert que j'étais plus forte dans autre chose, dans la physique, dans les mathématiques, et que ça se passait c'était très bien aussi, parce qu'on peut faire beaucoup d'autres carrières sans avoir besoin du langage. Et puis on peut aussi être très performant et arriver à communiquer sa performance à sa manière, même en ayant encore ces troubles qui peuvent être visibles dans la conversation ou dans l'écriture. Mais les gens, ils voient derrière la performance. Et ça, c'était le cas. C'était le jour où j'ai représenté un grand groupe devant le procureur fédéral américain. Ça m'a permis de vraiment comprendre que même en ayant ce genre de troubles, on peut toujours arriver à communiquer sa performance, communiquer ses idées, et puis construire et bâtir et aider à changer des systèmes. C'est tout à fait possible.
Alors aujourd'hui, comment ça va par rapport à ce trouble du langage ?
Écoutez, je pense que j'ai, avec toutes les années, surtout pendant mon enfance, j'ai trouvé des codes. Donc ça me permet ça se fait même très très naturellement, j'y pense vraiment plus. Parfois ça m'arrive encore d'inverser des lettres, surtout en français, le B, le D, et puis c'est vraiment pas grave.
Ouais. C'est une dyslexie, ça ?
C'est une dyslexie, tout à fait.
Ouais. Et on dit que quand on a une dyslexie, en fait, on a tous les autres 10. Moi, je vous le dis parce que moi, j'ai mon aînée, elle est dysgraphique. Et voilà, donc c'est des troubles de l'écriture en fait. Donc avec elle aussi, oui. On a dû mettre en place des aménagements et ça ne l'a pas empêchée d'écrire un livre dernièrement.
Oui, c'est très bien. Bravo à elle. Et voilà, c'est la preuve réelle qu'on peut y arriver. J'ai sorti aussi un livre récemment et voilà, on est différents, mais on a des qualités, on a des forces surtout. Dans autre chose.
Oui.
Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, il faut bâtir autour de ses forces et puis il faut essayer de voir juste comment on peut aménager avec des codes les lacunes qu'on a.
C'est ça, exactement. Mais alors, justement, toutes ces personnes, quand vous étiez plus jeune, plus petite, à part vos parents, bien sûr, mais à l'école, parce qu'aujourd'hui, on parle de bullying, de harcèlement, on en parle plus facilement, mais j'imagine que c'est ce que vous avez vécu à l'époque. Est-ce que c'est important pour vous qu'ils voient cette nouvelle réussite, cette nouvelle Abir ?
Ah oui, pour moi, c'est très important. Je sais que je suis très suivie sur les réseaux sociaux. Je suis suivie par des anciens camarades de classe que je salue d'ici. Je sais que voilà, on était enfants. Parfois, j'entendais des petites remarques. Elles pouvaient être innocentes de la part d'enfants, comme voilà, il pourrait s'agir du pur harcèlement scolaire. Je trouve qu'à l'époque, à mon époque en tout cas, il y en avait peut-être moins d'harcèlement que ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, à notre époque aujourd'hui. Mais voilà, moi, j'ai peut-être plus envie de prouver à des personnes qui ont des lacunes sur certains points, de leur dire qu'ils peuvent y arriver, plutôt que de prouver à qui que ce soit du passé que voilà, moi j'y suis arrivée et voilà, c'est vous voyez, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un du passé, mais j'ai plutôt envie d'inspirer d'autres personnes aujourd'hui, que peu importe le trouble qu'ils ont, surtout les parents, de leur dire encouragez vos enfants,
oui.
Soyez là, ils peuvent faire de très très belles carrières dans les chiffres, dans la physique, dans beaucoup d'autres choses. Mais il faut du soutien, il faut surtout de la confiance.
Cette confiance, vous l'avez eue comment? Parce que vous avez dit, le jour où j'ai eu ma confiance en moi, je savais que je pouvais faire les choses différemment en dehors des règles qui étaient dictées. Cette confiance, vous l'avez eue comment en vous?
En fait, donc si je remonte dans le temps, il y a un événement qui m'avait beaucoup marqué, c'était quand j'ai dû apprendre le français. Et alors déjà, j'avais très très difficile à savoir comment écrire de droite à gauche en arabe et tout. Ça faisait aucun sens pour moi, les lettres et tout ça, ça faisait strictement aucun sens pour moi, alors que je parlais quand même. Et le jour où on a dû apprendre à écrire en français avec de nouvelles lettres, là c'était une catastrophe. Et je pense que, à l'époque, une maîtresse en particulier, sa patience avait beaucoup de limites par rapport à moi, et qu'elle l'avait exprimé une fois. Et ça m'avait beaucoup bouleversée.
Elle avait dit quoi exactement?
Elle m'avait dit que j'étais bête.
Ok.
Et donc voilà, ça m'a tellement perturbée. Et en même temps, je me disais qu'elle avait raison. Parce que je voyais clairement que moi, je n'y arrivais pas. Tous les autres enfants, ils arrivent à écrire. Que pendant que les dictées, eux, ils ont déjà fini la phrase. Moi, je suis toujours en train d'écrire comment le P s'écrit. Et voilà, je me suis dit, elle a raison. Mais mes parents, ils vont apprendre cette histoire par la suite. Et mon papa, l'Arahman, il va venir en classe et devant moi. En fait, ils étaient en dehors de la classe, mais j'entendais tout, on entendait tout. Et mon père, il avait dit quelque chose qui m'avait aussi plus marqué. Il avait dit, ma fille, elle est plus intelligente que la plupart des personnes. Et elle est différente. Et donc, du coup, ces mots-là, en sachant que nous, ces enfants, on était une ligne rouge, de voir comment il me défendait, comment il croyait en moi, comment il a pris la peine de quitter son travail et de venir faire cette lecture à la dame. À partir de ce jour-là, on a commencé à étudier ensemble. Il m'aidait tous les soirs avec des codes. On faisait des petits casiers. On mettait les lettres dedans. On a commencé à vraiment retrouver plusieurs codes avec les doigts, avec la gestuelle, avec beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Et puis, quand je suis arrivée au lycée, c'est là où tout a basculé. Parce qu'on était plus focalisé sur les chiffres, on était plus focalisé sur la physique, sur des matières que j'aimais, que je comprenais très facilement. Et c'est là où je me suis dit, non, mais ça, je suis intelligente, je peux bien réussir. Oui. Et j'ai fini par être la première du lycée pendant 3 ans de suite. Donc voilà, la confiance, elle a été mise en place, il y a une fondation qui a été mise en place avec mon papa. Et puis, le reste, avec du travail, je voyais que oui, c'était possible.
Alors, avec vous, Habib, justement, c'est une véritable leçon d'amour parental, de confiance en soi. L'amour parental qui construit la confiance en soi, et cette confiance en soi qui ouvre les portes de l'excellence. Et le retour aux sources dans le partage que vous faites aujourd'hui, c'est magnifique.
Ouais, c'est très très important l'amour qu'on peut donner à ses enfants. Il faut pas le négliger, mais tout ce que ça fait dans le cerveau d'un enfant, c'est incroyable.
Oui. Bon, en tout cas, on vous souhaite encore plus de succès et de réussite dans ce que vous entreprenez. Merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Alors, Habir Kroll Rardan, vous êtes au Luxembourg aujourd'hui, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et vous venez quand même souvent au Maroc?
Oui, bah, parce que voilà, c'est mon pays, donc j'ai beaucoup de liens encore, même si toute ma famille elle est en dehors de Luxembourg, on se retrouve régulièrement là-bas.
Au
Et
Maroc,
puis
vous voulez dire?
avec voilà, au Maroc, on se retrouve régulièrement au Maroc. Et puis il y a tout ce projet de Finance Bel Maghrebi que je prends aujourd'hui de manière très professionnelle et qui fait que voilà, j'ai beaucoup de contacts, beaucoup de choses à faire avec le Maroc et j'espère que bah, de là, je vais réussir à contribuer à ma petite avec ma manière et à ma petite échelle. À aider les gens à bien comprendre la finance parce que ce qui est fascinant, Yasmine, c'est que quand les individus comprennent qu'en investissant, ils peuvent aider à bâtir toute une nation, là, ils le font vraiment avec beaucoup de sérieux et c'est à ça que j'ai envie d'arriver.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, avec la communauté des femmes d'aujourd'hui, toute cette noble ambition que vous avez. Bonne journée.
Merci beaucoup, Yassine. Bonne journée à vous
À
aussi.
vous aussi. Merci à Abiy. Tbarakallah alaik. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.